Chapitre 41. Meurtre parfait. Mount Pleasant, New Hampshire. Nuit du 2 au 3 avril 1999. Patricia devait effacer ses traces. Elle roula la couverture de pique-nique avec tout ce qui était dessus pour l'emporter. Elle ramassa le seau à champagne ainsi que les bougies, puis elle jeta dans l'eau les quelques galets marqués par des coulées de cire. Après avoir vérifié qu'il ne restait aucune trace de son passage, elle s'empressa d'aller récupérer un sac plastique qu'elle avait caché dans un taillis. À l'intérieur, le pull gris et la note « Je sais ce que tu as fait ». Elle glissa la note dans la poche arrière du pantalon d'Alaska. Elle y trouva alors le téléphone portable de cette dernière. Elle s'en empara aussitôt pour s'en débarrasser plus tard. Elle savait que le téléphone pourrait mener les enquêteurs à elle. Patricia prit ensuite le pull gris et voulut appliquer dessus du sang d'Alaska. Elle s'approcha de la tête de la jeune femme. Patricia se sentit à nouveau nauséeuse. Elle rassembla son courage. « Allez, Patricia, tamponne le pull sur son visage. Après, ce sera fini. Après, tu seras à l'abri pour toujours. » Mais alors qu'elle s'approchait du visage d'Alaska, Patricia perçut un râle. Alaska n'était pas morte. Du sang coulait pourtant abondamment de sa boîte crânienne, mais elle était consciente. Ses yeux ouverts regardaient en sa direction. Il l'implorait. Patricia se mit à pleurer toutes les larmes de son corps. Elle s'agenouilla auprès d'Alaska et lui caressa les cheveux. Elle lui murmura des mots tendres. Elle lui dit qu'elle l'aimait et qu'à présent elle l'aimerait toujours parce que leur amour ne pourrait jamais être gâché. Quelques minutes s'écoulèrent encore. La mort, pourtant si proche, ne venait toujours pas. Alaska continuait de dévisager Patricia avec un mélange de tristesse et d'amour. Patricia ne savait plus quoi faire. Elle attendit et attendit encore. Une heure s'écoula. Alaska agonisait toujours. C'était insoutenable. Alors elle prit le pull gris, passa ses mains dedans et serra le cou d'Alaska aussi fort que possible. Et plus Patricia serrait, plus elle pleurait. Ses larmes inondaient son visage. Puis Alaska mourut. Enfin. Patricia ramassa ses affaires et disparut dans la forêt. Elle se débarrassa du pull gris qui était à présent couvert du sang d'Alaska dans la vieille caravane, et elle remonta en voiture. Il lui restait encore une chose à faire pour appliquer à la lettre le plan d'Alaska. Déposer sur cette piste forestière une trace du passage de la Ford Taurus noire de Walter. Il était 1h35 du matin lorsque la Chrysler bleue descendit lentement la rue principale de Mount Pleasant. Patricia roulait au pas. Non seulement pour s'assurer qu'il n'y avait personne, ni passant ni patrouille de police, mais également pour essayer de retrouver la Ford Taurus de Walter parmi les véhicules garés le long du trottoir. Elle avisa la voiture en question peu avant le magasin de chasse et pêche. Elle se faufila jusqu'à la Ford Taurus, avec à la main une lourde masse qu'elle avait emportée avec elle. Elle asséna un coup violent sur le pare-choc arrière, puis un autre sur le phare arrière droit qui vola en éclats. Elle en ramassa les morceaux, puis elle se précipita dans sa Chrysler et disparut dans la nuit. Cependant, le bruit du phare que l'on brisait avait attiré l'attention d'une habitante de la rue. La libraire Cynthia Lockhart, se postant à la fenêtre de son salon, eut juste le temps d'apercevoir une voiture bleue munie d'une plaque du Massachusetts. Onze ans après ce meurtre, Patricia soulageait sa conscience en achevant sa confession. « Je me suis rendue sur la piste forestière, » nous raconta-t-elle, « et j'ai répandu les débris de phare, bien en vue, au pied d'un arbre que j'ai ensuite frappé avec la masse pour le marquer, y déposant les éclats de peinture arrachés à la carrosserie de la Ford. » « Et deux jours plus tard, Walter était arrêté, » liga Hallowood, « car tous les indices menaient à lui. » Y compris ce pull qu'il ne lui appartenait pas mais qu'Eric lui avait prêté et sur lequel il y avait donc des traces de l'ADN des deux hommes.
Patricia acquiesça.
Pour une raison que je ne m'expliquais pas sur le moment, Walter a avoué et accusé Eric Donovan d'être mêlé au meurtre. Ce n'est que par votre enquête que j'ai compris pourquoi. Ses aveux avaient été extorqués et comme il venait de découvrir ce qu'Eric avait forcé Sally à faire, il s'était vengé en le faisant plonger avec lui.
Hallowood considéra « C'est sans doute après avoir vu en salle d'interrogatoire ce pull appartenant à Eric et devenu pièce à conviction que Walter a pensé à faire plonger Eric.
C'est possible, dit Patricia. Après son arrestation, Eric a demandé à sa famille de me contacter pour l'assister comme avocate. C'est comme ça que j'ai découvert ce qui était en train de se passer. Je me suis rendu compte que mon plan allait malgré tout fonctionner. Je me rendis immédiatement auprès d'Eric en tant que son avocate, ce qui me permettait de suivre l'affaire de l'intérieur et surtout de le contrôler. Pendant les interrogatoires, je le manipulais complètement. Il était paniqué et il suivait mes consignes comme si c'était la parole divine. Je l'invitais à surtout en dire le moins possible. Je lui faisais croire que ça le servirait lors de son procès, alors que je savais très bien qu'en général, ceux qui se taisent sont coupables et que cela jouerait en sa défaveur. À cela s'est ajoutée cette histoire d'imprimante que je n'avais évidemment pas prévue et qui tombait à point nommé. Entre les interrogatoires, je mettais une pression folle sur Eric, je le culpabilisais. Je lui faisais perdre ses moyens. Il était cuit, je le savais. Quand Lorraine a voulu enquêter de son côté pour prouver l'innocence de son frère, je m'en suis aussitôt mêlé pour garder la main sur d'éventuelles avancées et pouvoir créer de fausses preuves si cela devait s'avérer nécessaire. Tant qu'Eric était en prison, j'étais en sécurité. Puis, mon dernier coup de maître, je l'ai convaincu que ce qui le sauverait était de plaider coupable. Et comme il était prêt à tout pour échapper à la peine de mort, il l'a fait. Là, j'ai su que mon meurtre était parfait. Enfin, presque. Il restait un détail à régler. Kaczynski, le flic qui avait interrogé Walter. Je savais que Walter était innocent. Je me doutais donc que ses aveux avaient été extorqués. Si Kaczynski venait à le révéler un jour, cela pouvait tout compromettre. Il fallait que je me débarrasse de lui aussi, je n'avais pas le choix. Je l'ai donc espionné. J'ai découvert qu'il partait courir tous les matins à l'aube. Un matin de janvier, j'ai profité de ce que Benjamin soit en vacances de ski en Colombie-Britannique pour récupérer la Chrysler bleue à Vinalhaven et renverser Kaczynski avec. J'ai échoué. Kaczynski n'est pas mort malgré la violence de l'impact. Tout le monde a pensé à un accident et je ne pouvais plus rien tenter sans attirer l'attention. J'ai dû me résoudre à le laisser en vie. J'ai eu le temps de faire réparer les dégâts sur la Chrysler et de la remettre dans le garage de Vinalhaven avant le retour de Benjamin. Les années se sont écoulées ensuite, toute cette affaire semblait être enterrée. J'avais commis un crime parfait. Pendant 11 ans, mon plan a parfaitement fonctionné, jusqu'à ce que vous débarquiez tous les deux.
« Et Benjamin Bradbird ?»
demanda Gaal Wood. Ni Lorraine ni Eric ne connaissaient évidemment Benjamin. Ils savaient que j'avais été marié, c'est tout. Quand Lorraine m'a prévenu que vous aviez remonté toute la piste jusqu'à un certain docteur Benjamin Bradbird, je savais que je risquais d'être rattrapé. Mais je suis resté calme. Ma chance a été qu'il se suicide. Ça a presque marché puisque vous aviez classé l'enquête. Au fond, je n'ai pas été étonné que Benjamin se donne la mort. Je savais combien sa réputation lui tenait à cœur et le scandale autour d'Eleanor Lowell aurait mis un terme à sa carrière de médecin, ruiné la réputation de sa mère et entaché le concours Miss Nouvelle-Angleterre. Benjamin me l'avait toujours dit, la vie est un jeu de pouvoir. Alaska et moi avions fomenté le crime parfait. Le seul grain de sable dans cet engrenage, ça a été vous deux, Perry et Marcus. Je dois dire que vous formez une sacrée équipe. Ce jour-là, après les confessions de Patricia Whitsmith, Gaal Wood et moi nous retournâmes à Mount Pleasant. Nous nous arrêtâmes à Grey Beach. Nous descendîmes jusqu'à la plage. Sur le sentier, je ramassai 2 fleurs sauvages. Gaal Wood fit quelques pas sur la grève et contempla le lac.
« Il y a un peu plus de 11 ans, l'écrivain. Je me trouvais ici même avec mon coéquipier Matt Vance. Il y avait sur ces galets qui n'ont pas bougé depuis le corps d'une jeune femme blonde dont nous ignorions tout et un énorme ours noir qui avait été abattu par la police locale. La jeune femme s'appelait Alaska Sanders. J'ignorais encore tout d'elle, et notamment qu'elle allait bouleverser ma vie.
Je tendis une des fleurs à Gaal Wood. Nous les jetâmes à l'eau et nous les regardâmes flotter sur l'onde calme. « À la mémoire d'Alaska Sanders, » dis-je. Gaal Wood acquiesça.
« Je suis content de savoir enfin ce qui lui est arrivé. Je vous le dois, l'écrivain. »
Il y eut un silence, puis il ajouta
« Ça me fait mal de vous l'avouer, mais j'aime passer du temps avec vous. »
« Moi aussi, sergent, j'aime passer du temps avec vous. »«
Vous pourriez venir quelque temps à la maison, si vous voulez. »
C'est très gentil, sergent. Mais il faut que j'arrête de parasiter la vie des gens et que je commence à vivre la mienne.
Content de vous l'entendre dire, l'écrivain.
Nous éclatâmes de rire. Et Galloway ajouta, cette fois d'un ton très sérieux,
« Merci, l'écrivain. »
« Pourquoi ?»«
Vous avez réparé ma vie. J'espère un jour pouvoir vous aider à réparer la vôtre. »